Chapitre 31. Le calme avant la tempête. Forme de fumée pour se cacher parmi les hommes. Par les ombres formées, elle dit la mort prochaine. Une forme de pouvoir, pareille au flux d'Esprène. Oserons-nous la reprendre, cette forme espionne, cette forme redoutable par les dieux façonnés, qui porte la sombre marque des incréés? Extrait du chant des secrets de ceux qui écoutent. 51e couplet. Kaladin mena sa troupe endolorie et fatiguée jusqu'au baraquement du pont 4, et, comme il l'avait demandé à leur insu, ses hommes reçurent une salve de vivats et de cris de bienvenue. On était en début de soirée, et l'odeur familière du ragoût était l'un des meilleurs accueils que Kaladin puisse imaginer. Il s'écarta pour laisser les 40 hommes le dépasser d'un pas pesant. Ce n'étaient pas des membres du pont 4, mais pour ce soir, ils seraient considérés comme tels. Ils se tenaient un peu plus droits, et un sourire naquit sur leurs lèvres quand les hommes leur tendirent des bols de ragoût. Rock demanda à l'un d'entre eux comment s'était déroulée la patrouille, et si Kaladin ne distingua pas la réponse du soldat, il entendit en revanche le rire tonitruant qu'elle soutira à Rock. Kaladin sourit, s'adossa au mur du baraquement, croisa les bras, puis il se surprit à inspecter le ciel qui s'assombrissait. Le soleil ne s'était pas encore tout à fait couché, mais des étoiles commençaient à apparaître autour de la cicatrice de Taln. L'alarme était suspendue juste au-dessus de l'horizon, une étoile beaucoup plus brillante que les autres, nommée d'après l'alarme unique que Rhea était censée avoir versée. Certaines des étoiles bougeaient. D'Esprène des étoiles, rien là d'étonnant. Mais la soirée avait quelque chose d'étrange. Il inspira profondément. L'air avait-il un goût rance?
« Mon capitaine !»
Kaladin se retourna. L'un des hommes de pont, un homme franc aux courts cheveux noirs et aux traits forts, n'avait pas rejoint les autres auprès du chaudron de ragoût. Kaladin chercha son nom. « Pitt, c'est bien ça ? » demanda-t-il.
« Oui, mon capitaine, » répondit l'homme. « Pont 17. »«
De quoi aviez-vous besoin ?»«
C'est seulement... »
L'homme lança un coup d'œil vers le feu accueillant où les membres du pont 4 riaient et bavardaient avec le groupe de patrouilleurs. Près d'eux, quelqu'un avait accroché plusieurs armures nettement reconnaissables sur les murs du baraquement. C'étaient des casques et des plastrons de carapace, attachés aux armures en cuir des hommes de pont ordinaires. Ils avaient été désormais remplacés par des casques et des plastrons en acier solide. Kaladin se demanda qui avait exposé là les anciennes armures. Il ignorait même que certains des hommes étaient allés les rechercher. C'étaient les armures excédentaires que Leïten avait fabriquées pour leurs hommes et entreposées dans les gouffres avant qu'ils ne soient libérés.
« Mon capitaine, » reprit Pitt, « je voulais simplement vous dire que je suis désolé. »«
Pourquoi donc ?»«
Quand nous étions hommes de pont. »
Pitt leva la main vers sa tête.
« Bourrasque, on croirait que c'était dans une autre vie. Je n'avais pas les idées très claires à cette époque.
Tout ça est un peu flou. » Mais je me rappelle avoir été content qu'on ait envoyé votre équipe plutôt que la mienne.
Je me rappelle avoir espéré votre échec. Parce que vous aviez osé marcher la tête bien droite, je...
Ne vous en faites pas, Pitt, répondit Kaladin. Vous n'êtes pas responsable. C'est à Sadeas qu'en revient la faute.
Sans doute.
Pitt prit soudain une expression lointaine.
Il nous a sacrément bien démoli, hein, mon capitaine?
En effet.
« Mais il s'avère qu'on peut reforger les hommes. Je n'aurais pas cru. »
Pitt regarda par-dessus son épaule.
« Il va falloir que je fasse ça pour les autres gars du pont 17, hein ?»«
Avec l'aide de Teft, oui. Mais c'est tout ce qu'on espère, » répondit Kaladin. « Pensez-vous en être capable ?»«
Je vais simplement devoir faire comme si j'étais vous, mon capitaine, » assura Pitt.
Il sourit, puis s'éloigna pour aller prendre un bol de ragoût et rejoindre les autres. Ces 40-là seraient bientôt prêts à devenir sergents de leur propre équipe d'hommes de pont. La transformation s'était produite plus vite que Kaladin ne l'avait espéré. « Teft, espèce de prodige, » songea-t-il, « vous avez réussi. » Où était Teft, d'ailleurs? Il était parti en patrouille avec eux et il avait à présent disparu. Kaladin jeta un coup d'œil par-dessus son épaule sans le trouver nulle part. Peut-être était-il allé voir les autres équipes de pont. En revanche, il surprit Rock à chasser un homme dégingandé vêtu de la robe des Ardents. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Kaladin en attrapant le manche-corne sur son passage.
« C'est lui-là, » répondit Rock. « Il passe son temps à traîner ici avec Carnet des croquis. Il veut dessiner homme de pont. Ha ! Parce qu'on est célèbre, vous voyez ?»
Kaladin fronça les sourcils. Un comportement étrange de la part d'un Ardent. D'un autre côté, ils étaient tous étranges, dans une certaine mesure. Il laissa Rock retourner à son ragoût et s'éloigna du feu, savourant la paix. Tout était si calme dans ce camp, comme si tout retenait son souffle.
« La patrouille semble avoir été efficace, »
déclara Sigzil en rejoignant Kaladin.
« Ces hommes ont changé. »
« C'est curieux, l'effet que 2 ou 3 jours de marche en tant qu'unité peuvent avoir sur des soldats, » commenta Kaladin. « Vous avez vu Teft ?»«
Non, mon capitaine, » répondit Sigzil. Il se retourna vers le feu. « Il faudrait que vous preniez du ragoût. Nous n'aurons pas beaucoup le temps de bavarder ce soir. »«
Tempête majeure, » comprit Kaladin. Il paraissait s'être écoulé trop peu de temps depuis la précédente, mais elle n'était pas toujours régulière, pas comme il l'avait cru. Les fulgiciens devaient effectuer des calculs mathématiques complexes pour les prédire. Le père de Kaladin en avait fait son passe-temps. Peut-être était-ce là ce qu'il remarquait. Prédisait-il soudain les tempêtes majeures parce que la nuit semblait trop haut? Il ne savait pas quoi au juste.
« Tu te fais des idées, » se dit-il.
Chassant l'épuisement suscité par la chevauchée et la marche prolongée, il s'en alla chercher du ragoût. Il allait devoir marcher vite, il fallait qu'il rejoigne les hommes qui protégeaient Dalinar et le roi pendant la tempête. Les hommes de la patrouille l'acclamèrent tandis qu'il remplissait son bol.
Assise dans le chariot brinque-ballant, Shallan passait la main par-dessus la sphère posée près d'elle sur le siège, l'empalmait, puis en laissait tomber une autre. Tin haussa un sourcil. « J'ai entendu la deuxième toucher le bois. »«
Filet sans prise !» s'exclama Shallan. « Je croyais que j'y étais. »«
Filet sans prise ?»«
C'est un juron, » expliqua Shallan en rugissant. « Je l'ai entendu chez les marins. »« Shallan, avez-vous la moindre idée de ce que ça signifie ?»«
Ben, pour pêcher ?»
demanda Shallan. « Les filets sont vides. »«
Et c'est grave parce qu'ils n'ont pas attrapé de poisson. »
Tin eut un rictus moqueur.
« Ma chère, je vais faire de gros efforts pour vous corrompre. En attendant, vous feriez mieux d'éviter d'employer les jurons des marins, s'il vous plaît. »
« Très bien. » Shallan passa de nouveau la main au-dessus de la sphère et procéda à l'échange. « Pas de cliquetis. Vous avez entendu ça ? Enfin, vous n'avez pas entendu ça ? Elle n'a fait aucun bruit. »«
Joli, »
répondit Tin en tirant une pincée d'une sorte de substance moussue. Elle entreprit de la frotter entre ses doigts, et Shallan crut voir de la fumée s'élever de la mousse.
« C'est vrai que vous progressez. Je crois aussi que nous devrions trouver un moyen d'utiliser votre don pour le dessin. »
Shallan avait déjà une petite idée de la façon dont elle pourrait l'employer. D'autres anciens déserteurs lui avaient demandé leur portrait.
« Vous avez travaillé vos accents ?» demanda Tin, dont le regard se voilait tandis qu'elle frottait la mousse.
« Ça, on peut le dire, ma brave dame !» répliqua Shallan avec un accent thaïlien.
« Très bien. Nous aborderons la question du costume quand nous aurons davantage de ressources. Pour ma part, ça m'amusera beaucoup de regarder votre tête quand vous sortirez en public avec la main découverte. »
Shallan porta aussitôt la sage main à sa poitrine.
« Pardon ? Je vous avais prévenu que certaines choses seraient difficiles, » répondit Tin avec un sourire retors. « À l'ouest de Mara, presque toutes les femmes sortent avec les 2 mains découvertes. Si vous devez vous rendre dans ces régions-là, sans vous faire remarquer, vous allez devoir vous comporter comme elle.
« Mais c'est indécent !» s'exclama Shallan, rougissant furieusement.
« Ce n'est qu'une main, Shallan !» protesta Tin.
« Bourrasque, vous êtes tellement guindés, vous autres, les vorins !»«
Cette main est exactement identique à l'autre.
Beaucoup de femmes ont des seins qui ne sont guère plus prononcés que ceux des hommes !» rétorqua Shallan d'un ton cassant. « Ce n'est pas convenable pour autant qu'elles sortent sans chemise comme ils le font. »
« En réalité, dans certaines parties des îles de Réchi et d'Iri, il est fréquent que des femmes se promènent torse nu. Il fait très chaud là-bas, et ça ne dérange personne. En tout cas, ça me plaît bien. »
Shallan leva les 2 mains vers son visage.
l'une couverte, l'autre non, pour cacher qu'elle rougissait.
« Vous faites ça uniquement pour me provoquer ?»«
Ouais, » répondit Tin en gloussant de rire. « C'est ça, la jeune fille qui a arnaqué une troupe de déserteurs et pris le contrôle de notre caravane. »«
Ça ? Je n'ai pas eu besoin de me mettre toute nue pour le faire. »
« Une bonne chose, » commenta Tin. « Vous vous considérez toujours comme quelqu'un d'expérimenté ? Vous rougissez dès qu'on parle de dénuder votre sage main.
Vous ne comprenez pas comme il vous sera difficile de mettre en œuvre la moindre arnaque, un tant soit peu fructueuse. »
Shallan inspira profondément.
« Sans doute. »
« Exposer votre main n'est pas ce que vous aurez à faire de plus dur, » ajouta Tin, l'air lointain. « Ni d'une brise, ni d'une bourrasque. Je... »«
Qu'y a-t-il ? » demanda Shallan.
Tin secoua la tête.
« Nous en parlerons plus tard. »
« Est-ce que vous apercevez déjà ces camps de guerre ?»
Shallan se mit debout, sur son siège, et abrita ses yeux pour les protéger du soleil à l'ouest. Au nord, elle distingua un voile brumeux. Des centaines de feux, non, des milliers, assombrissaient légèrement le ciel. Son souffle se coinça dans sa gorge.
« Nous y sommes. »
« Donnez le signal de camper pour la nuit, » lui commanda Tin sans quitter sa posture détendue.
« On dirait que ce n'est qu'à quelques heures d'ici, » répondit Shallan. On pourrait continuer.
Et arriver après la tombée de la nuit, puis nous retrouver obligés de camper quand même, compléta Tin. Mieux vaut arriver reposé demain matin. Faites-moi confiance sur ce point.
Shallan se rassit et appela l'un des caravaniers, un jeune homme qui marchait pieds nus à côté de la caravane. Il devait avoir des cales effroyables. Seuls les plus âgés d'entre eux montaient à cheval.
Demandez au maître commerçant Macob si ça lui semble une bonne idée de s'arrêter ici pour la nuit, ordonna Shallan au jeune homme.
Il hocha la tête, puis remonta la rangée au petit trot, dépassant des chules qui avançaient pesamment.
« Vous ne vous fiez pas à mon estimation ?»
questionna Tin d'une voix amusée.
« Le maître commerçant Macob n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'il doit faire, » répliqua Shallan. « S'il lui paraît judicieux de s'arrêter, il le suggérera peut-être. Ça me semble une meilleure manière de commander. »
Tin ferma les yeux, visage levé vers le ciel. Elle tenait toujours une main en l'air, frottant distraitement la mousse entre ses doigts.
« Il se peut que j'ai quelques informations pour vous ce soir. »«
À quel sujet ?»«
Votre pays. »
Tin ouvrit un œil. Malgré sa posture indolente, cet œil était curieux.
« Très bien, » répondit Shallan sans s'impliquer. Elle s'efforçait d'en révéler le moins possible sur son foyer ou la vie qu'elle y menait.
Elle n'avait pas davantage parlé à Tin du voyage ni du naufrage. Moins Shallan en dévoilait sur son passé, moins il était probable que Tin comprenne la vérité sur sa nouvelle étudiante.
« C'est sa faute si elle a tiré des conclusions hâtives à mon sujet, » se dit Shallan. « Et puis c'est elle qui m'apprend à faire semblant. Je ne devrais pas m'en vouloir de lui mentir, elle ment à tout le monde. »
Cette pensée la fit tressaillir. Tin avait raison. Shallan était bel et bien naïve. Malgré tout, elle se sentit coupable de mentir, même à une arnaqueuse professionnelle.
« J'en aurais attendu plus de votre part, » déclara Tin en refermant son œil. « Étant donné... »
Sa remarque provoqua Shallan, qui se surprit à gigoter sur son siège.
« Étant donné que quoi ?»
demanda-t-elle enfin.
« Donc, vous n'en savez effectivement rien, »
répondit Tin.
« C'est bien ce que je pensais. »«
Tin, j'ignore beaucoup de choses, » répliqua Shallan exaspéré. « Je ne sais pas construire un chariot, ni parler Irial, et je ne sais absolument pas comment vous empêcher d'être agaçante. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de comprendre ces trois points. »
Tin sourit, les yeux clos.
« Votre roi Vedan est mort. »«
Anavanar ? Il est mort ?»
Elle n'avait jamais rencontré le haut prince, encore moins le roi. La monarchie était une chose lointaine. Elle s'aperçut que ça n'importait pas particulièrement à ses yeux.
« Alors son fils va hériter ?»«
Il le ferait en temps normal, s'il n'était pas mort lui aussi. Ainsi que 6 des hauts princes de Jakeved. »
Shallan en eut le souffle coupé.
« On raconte que c'était l'assassin en blanc, » poursuivit Tin tout bas, sans ouvrir les yeux. « Le Shinov qui a tué le roi Aleti il y a 6 ans. »
Shallan s'efforça de réfléchir malgré sa confusion.
« Ses frères, allaient-ils bien ?»« 6 hauts princes ? Lesquels ?»
Ça lui apprendrait peut-être comment se porter sa principauté.
« Je n'en ai aucune certitude, » répondit Tin. « Jal, Mala et Evinor, aucun doute là-dessus. » Et probablement Abrial. Certains sont morts pendant l'attaque, d'autres avant ça, même si les informations sont vagues. Ces jours-ci, c'est difficile d'obtenir des nouvelles, un tant soit peu fiables, en provenance de Védénard.
Valam, il est toujours en vie ?
C'était son propre haut-prince. D'après les rapports, il se battait pour la succession. Mes informateurs m'enverront des nouvelles ce soir, par Ekokalam. J'aurai peut-être quelque chose pour vous à ce moment-là.
Shallan se détendit sur son siège. Le roi ? Mort ? Une guerre de succession ? Faire des tempêtes ? Comment pouvait-elle obtenir des nouvelles de sa famille et de leurs propriétés ? Ils habitaient loin de la capitale, mais si le pays tout entier était ravagé par la guerre, elle pouvait atteindre même les zones les plus reculées. Il n'existait aucun moyen de contacter facilement ses frères. Elle avait perdu son propre Ekokalam dans le naufrage du plaisir du vent.
J'apprécierai n'importe quelle information, répondit Shallan. Vraiment n'importe laquelle.
Nous verrons. Passez donc pour le compte-rendu. Shallan digéra cette information.
Elle se doutait que je n'en savais rien. Mais elle ne m'avait rien dit jusqu'à présent.
Shallan appréciait Tine, mais devait garder en mémoire que son métier consistait à cacher des informations.
Que savait-elle d'autre qu'elle ne partageait pas ?
Devant elle, le jeune homme de la caravane longeait la file de chariots dans le sens inverse du mouvement. Lorsqu'il atteignit Shallan, il se retourna et se mit à marcher à côté de son véhicule.
« Makob répond que vous avez bien fait de demander et que nous devrions sans doute camper ici. Tous les camps de guerre ont des frontières sécurisées et il est peu probable qu'il nous laisse entrer pendant la nuit. Par ailleurs, il ne sait pas trop si nous pouvons atteindre les camps avant la tempête de ce soir. »
Sur le côté, Tine souriait, les yeux toujours clos.
« Alors campons, » déclara Shallan.